C'est une joie pour moi d'être ici parmi vous ce matin. Merci de votre accueil. Je suis très heureux de découvrir la fraternelle. Les apparences peuvent être trompeuses. Un petit monceau de glace flottant sur de l'eau n'est apparemment, vu d'un bateau, pas grand-chose. Quoique. Un soleil d'été sur la plage ne nous offre en apparence que les bienfaits de sa chaleur et de sa lumière. Quoique. Un ministre des Finances français chargé de lutter contre la fraude fiscale ne peut pas lui-même être un fraudeur. Quoique. Bref, les apparences peuvent être réellement trompeuse. Et vous savez, finalement, c'est assez facile d'illustrer ça comme je viens de le faire avec ces exemples, en parlant d'iceberg, de soleil ou de Jérôme Cahuzac. C'est assez facile, assez petit peut-être. Mais nous. Mais moi. Est-ce que ce que je donne à voir en apparence, est-ce que ce que je dis de moi correspond vraiment toujours à ce que je suis en vérité, à ce que je vis vraiment? Oh que non. Oh que non. Alors ça peut être pour de bonnes raisons. Par exemple, il y a des personnes avec lesquelles je ne me sens pas suffisamment en confiance pour leur partager la vraie réalité de ce qu'il y a au fond de moi. Avec certaines personnes, je fais gaffe. Je mesure ce que je dis de moi. Mais c'est parfois pour des raisons moins belles que je ne révèle pas le fond de mon cœur, parce que c'est pas toujours très beau ce qu'il y a au fond de mon cœur. Franchement. C'est pas toujours très beau. Et j'ai la faiblesse de penser que je ne suis pas le seul dans ce cas-là ce matin. Vraiment, les apparences peuvent être trompeuses. Vraiment. Dans certaines pages du premier livre de Samuel, alors certes, dans un contexte, dans un registre tout autre que ceux que je viens d'utiliser pour introduire ce message, il est pas mal question d'apparence trompeuse et je vous propose d'aller y faire un tour. En 1 Samuel 4, verset 9, sur le champ de bataille qui voit s'opposer les Israélites aux Philistins, voilà les mots qu'eurent ces derniers, les Philistins. Fortifiez-vous et soyez des hommes. 1 Samuel 4, verset 9, pour ceux qui cherchent, pardon. 1 Samuel 4, verset 9. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux, comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. Alors la suite immédiate de l'histoire montre qu'en apparence, ces mots semblent avoir porté du fruit. Et je lis les versets qui suivent. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. Alors dans cet épisode, il y a certes d'un côté les Philistins qui défient le pouvoir de Dieu, mais de l'autre, les Israélites qui, en quelque sorte, défient Dieu en se fiant exagérément au pouvoir de Dieu. Alors, je m'explique. Quand je dis que les Israélites défient Dieu en se fiant exagérément au pouvoir de Dieu, en fait, c'est parce qu'ils comptent sur Dieu tout en le méprisant. En effet, à cette époque, Ophni et Phinéas, les deux fils d'Élie, sont prêtres, mais ce sont des prêtres corrompus, qui bafouent impunément le culte de l'Éternel. Et c'est au jeune Samuel que Dieu révèle qu'il va punir Élie et sa famille, en 1 Samuel 3. La folle présomption des Israélites est sévèrement mise à mal lors des batailles livrées contre les Philistins. Les Israélites sont battus. Et comme il l'avait annoncé à Samuel, Dieu a exercé son jugement. Il a fait ce qu'il a dit. Et cette issue tragique pour les Israélites ne peut être mieux décrite que par ces mots prononcés par la veuve mourante de Phinéas, l'un des fils d'Élie, alors qu'elle vient juste de donner naissance à son enfant. Voilà ce qu'elle dit, voilà ce qu'on dit d'elle. Elle appela l'enfant Ikavod en disant « La gloire est bannie d'Israël ». Elle dit « La gloire est bannie d'Israël car l'arche de Dieu est prise ». L'arche de Dieu est prise. Et voilà ce que les Philistins vont en faire. Et je vais lire une partie du chapitre 5 de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Eben-Ézer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon, à Asdod, ne marchent pas sur le seuil. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens, et il fit des ravages parmi eux. Il frappa de tumeurs à Asdod et dans le territoire qui en dépend. Quand ils virent cela, les habitants d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il fait peser lourdement sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Alors je saute quelques versets où on voit que l'arche est ensuite successivement envoyée dans deux villes des Philistins. Et le chapitre se termine ainsi. « Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent et dirent « Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » En effet, dans toute la ville régnait une terreur mortelle. La main de Dieu y pesait très lourdement. Ceux qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. » Fin de notre lecture. Alors voilà, victorieux au combat, les Philistins qui s'emparent de l'arche de Dieu, l'arche de l'Alliance, que les Israélites avaient pensé devoir prendre sur le champ de bataille afin de leur assurer la victoire. Les Israélites apprennent là une terrible leçon, mais ô combien importante. On ne manipule pas Dieu. L'arche de Dieu n'avait aucun pouvoir en tant que telle. C'est la fidélité à Dieu qui aurait pu épargner aux Israélites une telle issue. Et dès lors, livrés aux mains des Philistins, ces derniers vont utiliser l'arche de Dieu comme il l'aurait fait avec n'importe quel autre trophée de guerre. Les Philistins mettent l'arche de l'Alliance à l'intérieur du temple de Dagon et l'installent même à côté de leur divinité. Alors si on en croit d'autres récits bibliques et extra-bibliques, il y a tout lieu de penser que Dagon était probablement la divinité la plus importante du culte philistin. Et placer ainsi l'arche de Dieu, cet objet symbolisant le Dieu d'Israël, placer ainsi l'arche de Dieu dans le temple de la divinité d'Agon, manifeste bien la compréhension de la dimension théologique que les Philistins percevaient de cette victoire militaire. C'est-à-dire que si les militaires philistins l'avaient remporté sur les forces israélites, c'était parce que Dagon s'était révélé supérieur au Dieu des Israélites. Les Philistins ne pouvaient mieux exprimer cette victoire qu'en plaçant l'arche de Dieu ainsi capturée dans le temple même de Dagon. Dans leur perspective, les Philistins, il n'y avait en effet pas seulement un peuple qui avait gagné, mais aussi et surtout un Dieu avait gagné, Dagon. Dans les deux premiers versets de ce chapitre, je trouve d'ailleurs assez impressionnante la manière dont les choses nous sont rapportées. L'arche de Dieu est présentée comme une chose capturée. Elle est en leur possession, elle est leur objet, elle est en leur pouvoir aux Philistins. Et elle est aussi livrée au pouvoir de Dagon. Placée d'une certaine manière au service de Dagon. Les Philistins traitent Dieu comme une idole de plus, dont on peut librement disposer, que l'on peut manipuler à sa guise. Quelle provocation, quelle défiance vis-à-vis de Dieu. Dieu qui est considéré comme vaincu par les Philistins et par leur divinité. Oh, c'est une sombre journée pour le peuple d'Israël, vraiment un jour tragique. Mais à ce jour des plus obscurs succède une nuit des plus lumineuses. Une nuit qui va commencer par lever le voile sur les apparences. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Mes amis, il s'est passé cette nuit-là dans le temple de Dagon quelque chose d'assez extraordinaire. Nous contemplons le résultat. Dagon étendu par terre, le visage contre terre devant l'arche de Dieu. Ça ressemble à ça, un Dieu victorieux, une statue étendue par terre. Quel moment, quelle vision dans le temple de Dagon ce matin-là. Et il y a un détail qui, je trouve, est une perle dans ce texte. Dans les deux premiers versets du chapitre, il est question de l'arche de Dieu. Alors qu'au verset 3, il est question de l'arche de l'Éternel. Alors vous me direz, il s'agit toujours de Dieu. Oui, il s'agit toujours de Dieu. Mais derrière la traduction éternelle, eh bien, c'est le tétragramme que nous avons chanté tout à l'heure. Yahvé, le nom que Dieu porte quand il vient visiter son peuple et faire alliance avec lui. Si vous voulez, c'est son nom de mariage avec Israël. C'est le nom de mariage de Dieu avec Israël. Et ça me touche de voir que l'auteur inspiré de cet épisode, de ce texte, utilise à ce moment-là ce nom si particulier de Dieu. À cet instant-là, Dagon n'est pas étendu par terre devant n'importe quel dieu. Il est étendu devant Yahvé, le Dieu qui a fait alliance avec Israël. Et alors même que Yahvé vient d'exercer son jugement contre son peuple infidèle, c'est vrai, eh bien, il demeure bel et bien Yahvé, le Dieu qui a fait alliance avec Israël. Alors que se passe-t-il ensuite? Eh bien, ce matin-là, Dagon est doublement remis à sa place. D'abord, Dagon est remis à sa place par Yahvé lui-même. Ce n'est pas à Dieu de servir Dagon, c'est à cette idole, Dagon, de s'incliner, de s'étaler sur le sol, sur la poussière, devant le seul Dieu qui soit. Dagon est en position d'absolue soumission. Mais ensuite, et quelle ironie il y a là, Dagon est physiquement remis à sa place par des mains humaines. Qu'est-ce que c'est que ce Dagon? Le Dieu prétendument victorieux a besoin de l'aide des hommes pour être remis, reposé sur sa place, sur son piédestal. Un Dieu incapable de se relever tout seul de la poussière. Alors je me demande si bien des années après, le prophète Ésaïe avait cet épisode en tête, quand il a écrit ce passage d'Ésaïe 46, verset 7, au sujet des idoles et des faux dieux. Il le porte, il le charge sur l'épaule, il le dépose à sa place et il y reste. Il est incapable de quitter sa place. En l'occurrence, Dagon a bien quitté sa place parce que Dieu l'a mise à terre. Mais Dagon est incapable de la reprendre tout seul, sa place. Il a besoin des hommes. Quel Dieu! Quel contraste entre Dagon et Yahvé. D'un côté, Dagon, un dieu qu'il faut porter et remettre à sa place, et de l'autre, Yahvé, qui n'a aucunement besoin d'être porté par Israël. Au contraire, c'est Yahvé lui-même qui porte Israël, qui porte son peuple. écoutez cette parole de Dieu rapportée à nouveau par le prophète Ésaïe. Belle s'écroule, c'est en Ésaïe 46, les versets 1 à 4. Belle s'écroule, Nébo tombe, on place ses statues sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël, je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance, et jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs. Je vous soutiendrai. Comme je l'ai déjà dit, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Mes amis, nous n'avons pas un Dieu que nous devons porter. Nous avons un Dieu qui nous porte. Chaque jour, chaque instant. Alléluia. Et même si les apparences très concrètes de nos vies pourraient nous laisser penser, ou laisser penser à d'autres qui nous voient, eh bien que Dieu semble très absent, très silencieux, scandaleusement absent, silencieux, la réalité c'est que Dieu est là et qu'il nous porte, quelles que soient les apparences. Dagon remis en place, ce jour arrive à son terme pour laisser place à une nuit non moins extraordinaire que la précédente. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Il ne lui restait que le tronc. En ce surlendemain, encore, Dagon se retrouve cloué au sol en face de l'arche de Dieu, de l'Éternel. Dagon est une fois de plus humilié, mais avec une différence de taille, sa tête et ses mains ont été coupées. Cette décapitation s'apparente vraiment à une exécution militaire, comme on peut le voir aussi avec David, qui coupera la tête de Goliath après l'avoir tué, ou encore avec les Philistins qui couperont la tête de Saül après avoir découvert son cadavre. L'expression qui est traduite ici par « et il ne lui restait que le tronc », littéralement, on pourrait la traduire par « seul Dagon restait sur lui ». L'auteur inspiré de cet épisode nous dit que le tronc de Dagon, ce qui reste de lui une fois qu'on a enlevé la tête et les mains, eh ben c'est encore et toujours Dagon, pas de changement. Ni tête ni main, seulement Dagon. Une manière, je trouve, délicieuse de dire ce que Dagon était véritablement, une divinité qui n'a jamais pu penser, parler, agir. Ça change rien. Que cette statue ait sa tête ou non, qu'elle ait ses mains ou non, ça ne change rien. Dagon n'est rien en tant que tel. Certes, pour ses adorateurs, pour ceux qui vouaient un culte à Dagon, les Philistins, eh bien c'était leur dieu, leur idole. Mais les voilà qui font face à leur dieu, un dieu décapité, découpé, au sol, en face de l'arche de l'Éternel, à qui seul, lui le seul Dieu, revient toute la gloire. Et rappelez-vous de ces paroles angoissées de la veuve mourante de Phinéas que nous avons lu tout à l'heure. Il est dit à la place l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Où est-elle, cette gloire, à cet instant-là du récit, en ce matin, petit matin du surlendemain ? Mes amis, à Asdod, dans le temple de Dagon, ce matin-là, quelqu'un possédait la gloire, toute la gloire, et le manifestait de manière éclatante. Non, le Dieu d'Israël, apparemment vaincu, ne l'était pas. Oh que non, il n'était pas vaincu. Et c'est ce qu'il va ensuite démontrer de manière redoutable pour les Philistins, car ces événements dans le temple de Dagon n'étaient que le commencement des difficultés des Philistins. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Asdod et dans le territoire qui en dépend. Quelle ironie, là encore. Dagon, qui gît étendu sur le sol, sans ses mains, alors que la main de l'Éternel se met en action pour frapper les ennemis de son peuple. Alors les gens d'Asdod ne tardent pas à faire le lien, la connexion entre les maux qui s'abattent soudainement sur eux et le sort réservé à leur divinité, Dagon. et la présence de l'arche de l'Éternel au milieu d'eux. Ils se disent vite, l'arche doit partir, c'est avec l'arche qu'il y a un problème. Et l'arche quittera bien Asdod pour être transportée à Gath, puis à Écron, deux villes philistines, où l'Éternel frappera lourdement les habitants. Et finalement, les Philistins décideront de s'en défaire complètement de cette arche. Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Les Philistins capitulent. Et le chapitre se termine par ces mots : ceux qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. La ville entière se joint à un cri angoissé vers le ciel pour obtenir la délivrance. Mes amis, tout ça s'est passé il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Mais tout ça fait partie d'une réalité, hélas encore très habituelle. Celle de la provocation, de la défiance que les êtres humains manifestent vis-à-vis de Dieu. Et pour un temps, les gens semblent s'en tirer bien. Ils pensent pouvoir provoquer, défier Dieu sans problème. Ils pensent que se moquer de Dieu, ça marche, quoi. Ça marche. Frères et sœurs, des foules de gens autour de nous pensent vraiment que ça marche. Ça marche pour bien des gens. Tant de gens, excusez-moi, mais se foutent de Dieu. Se foutent de Dieu. Et ça marche. Leur vie se passe apparemment, et parfois même très bien en apparence. Franchement, très bien. Mais ça ne marche pas indéfiniment. Ça ne marche pas indéfiniment. Les apparences finiront toujours par laisser place à la réalité véritable. Qu'il le veuille ou non, tout être humain se tiendra un jour devant Dieu et devra rendre compte de sa vie. Par ailleurs, je crois que le message de cet épisode illustre que la vision du monde des Philistins, vision qui trouve de multiples échos dans notre monde actuel, bien c'est une vision complètement erronée, complètement inadéquate. Contrairement à Dagon, Dieu n'est pas créé à notre image, Dieu n'est pas soumis aux forces de la nature, pas plus qu'à des forces magiques. Dieu ne peut pas être manipulé ou contraint de nous servir quand nous en éprouvons le besoin. Dieu est en réalité immanent, réellement impliqué dans la création et dans la vie de ses créatures, et transcendant, en position de contrôle total. Dieu est victorieux sur toutes les forces de notre monde, comme il s'est montré victorieux sur le dieu Dagon des Philistins. Mais les Israélites devaient eux aussi évoluer dans leur vision de Dieu. Même quand Israël ne parvenait pas à vivre à la hauteur de la grâce que Yahvé leur accordait, même quand Israël ne semblait pas plus éclairé que les Philistins en tentant de manipuler et de contrôler Dieu avec leur recours désastreux à l'Arche de l'Alliance, Dieu se révéla victorieux des griffes de la défaite. Alors je crois que ce texte peut parler aujourd'hui tant au monde qu'à l'Église. Il offre au monde un aperçu de cette réalité. Dieu est concerné par le monde. Dieu veut s'occuper du monde, comme Dieu l'a fait avec les Philistins, en acceptant de devenir vulnérable au point d'être capturé et traité comme un trophée de guerre. Dieu est suffisamment concerné par les Philistins d'aujourd'hui pour venir dans leur monde, pour se révéler à eux. Et même si cela peut faire mal, je m'explique, dans le contexte de notre passage, il y a beaucoup de sang qui coule, c'est concret, la mort, et de la souffrance de part et d'autre. Le jugement de Dieu produit dans cet épisode bien des morts, bien des souffrances. Alors, c'est vrai, la transposition avec notre réalité d'aujourd'hui, elle est forcément délicate à faire, à opérer. Mais quand Dieu se révèle aux Philistins d'aujourd'hui, à ceux qui pourraient se moquer éperdument de Dieu, eh bien, il veut d'abord leur révéler quand même qu'il y a un problème en eux, qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont coupables et qu'ils ont vraiment, vraiment besoin d'un sauveur. Et une telle révélation peut parfois faire mal à bien de nos contemporains. Certains la détestent, cette révélation aujourd'hui. Certains la détestent. Mais ce texte offre aussi à l'Église un aperçu de cette réalité qui nous rappelle que Dieu s'est suffisamment intéressé à nous au point de venir dans notre monde, au point de devenir vulnérable, au point de se frotter à nos péchés, à nos idolâtries, et même de se laisser parfois exploiter par ceux-là même qui portent son nom. Mes amis, veillons à ce qui pourrait dans nos vies s'apparenter à des tentatives de manipulation de Dieu. Veillons à ce qui pourrait dans nos vies s'apparenter à des idoles qui nous détournent du seul Dieu vivant, vrai et victorieux. Oui, victorieux. Nous avons un Dieu victorieux. Car on ne peut pas lire cette vieille histoire sans penser à une autre histoire. Celle qui concerne la plus grande des défaites apparentes de Dieu en face de ses ennemis. Et vous savez bien où et quand elle a eu lieu, cette défaite apparente. Sur la croix où Jésus est mort. Ça a été le moment dans l'histoire du monde où la défiance envers Dieu, la provocation, vous l'appelez comme vous voulez, le moment où la défiance envers Dieu s'en est apparemment bien tirée. Le Messie de Dieu, le Fils de Dieu, cloué sur une croix, exécuté dans la plus grande faiblesse, honte, humiliation. Oui, dans la plus grande faiblesse apparente. Car quand tu regardes à la croix, qui est vainqueur? Qui est vaincu? C'est qui? L'arche de l'Éternel, retenue un temps, captive des mains des Philistins. Jésus-Christ, retenu un temps, captif sur cette croix où il est cloué. Mais dans un cas comme dans l'autre, qui est vainqueur? Qui est vainqueur? Tôt le matin, des Philistins se sont rendus dans le temple de leur Dieu, un Dieu qu'ils ont trouvé à terre, couché, gisant dans la poussière. Tôt le matin, des femmes se sont rendues au tombeau de Jésus. Mais Jésus n'était plus là. Il s'était relevé de la mort. Celui qui était apparemment le vaincu, était en réalité le tout-puissant victorieux. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen.